Allô docteur. Allô docteur, sur Radio Orient.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Radio Orient. Aujourd'hui, nous abordons un sujet de santé publique majeur, l'obésité. Une maladie silencieuse, mais aux conséquences bien visibles, physiques, psychologiques et sociales. Elle touche des millions de personnes dans le monde, enfants comme adultes. Et elle continue de progresser, mais que savons-nous réellement de l'obésité? Est-ce qu'une simple question de volonté? Quels sont ses liens avec notre mode de vie, notre génétique ou notre environnement social. Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir un spécialiste du sujet, Dr Zineddine Khayat, endocrinologue. Docteur, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci infiniment pour votre invitation.
Docteur Zineddine Khayat, quel est le rôle de l'endocrinologue dans la prise en charge?
Le rôle de l'endocrinologue, c'est d'abord examiner le patient, donc pour voir un petit peu et rechercher s'il n'y a pas une cause hormonale notamment, hormonale pour cette obésité, notamment, est-ce qu'il n'y a pas un problème thyroïdien, de la thyroïde?
L'endocrinologue ou l'akhissaï fait amrad l'rodad.
Donc, vérifier s'il n'y a pas un trouble hormonal.
D'ailleurs, ce n'est pas évident de trouver un rendez-vous facilement avec un endocrinologue sur Doctolib.
Oui, sur Doctolib, c'est un peu difficile.
Ils sont tellement sollicités, je pense.
Il y a beaucoup de sollicitations. Mais bon, les rendez-vous, quand l'endocrinologue se charge pour vous trouver un rendez-vous, parce qu'on garde des créneaux pour les patients quand il y a des urgences ou quand il y a pour les patients qui sont réguliers, il n'y a pas de souci pour trouver un rendez-vous. C'est vrai que c'est quand on ouvre tous les créneaux sur Doctolib, le problème, c'est que tous les créneaux sont trop rapidement pris. Et après, on a du mal à trouver pour les suivis des patients. C'est pour ça que les créneaux sont un petit peu bloqués pour réserver les créneaux.
D'accord, on comprend mieux. Hein, voilà, et les auditeurs vont comprendre aussi. Alors, régime, sport, médicaments, chirurgie bariatrique, quelles sont les options et pour qui?
Pour la chirurgie bariatrique?
Oui.
Alors, la chirurgie bariatrique, c'est un très bon traitement aussi pour l'obésité, qui a commencé il y a quand même pas mal d'années maintenant, qui est réservé il y a 7 points très importants pour l'obésité, pour la prise en charge de bariatrique. Le premier point, c'est d'abord avoir un IMC supérieur à 40. Okay? Donc un indice de masse corporelle supérieur à 40, ça c'est le premier point. Mais on peut accepter un IMC supérieur à 35 quand on a des complications à cause de l'obésité, notamment comme ce que je viens de parler pour les médicaments, notamment s'il y a un problème mécanique, de l'arthrose, des choses importantes. Quand on a aussi de l'apnée du sommeil, quand on a des troubles avec beaucoup de ronflements et tout ça, quand on a du diabète, quand on a un problème de fertilité et d'autres problèmes comme ça, on peut accepter un IMC à partir de 35. Donc, le premier critère, si l'IMC est supérieur à 40 ou 35 si on a d'autres complications. Deuxième critère, il y a 7 critères en fait. Deuxième critère, il faut l'âge, c'est entre 18 ans et 65 ans. On ne fait pas en dessous de 18 ans, on ne fait pas au-delà de 65 ans. Exceptionnellement, on peut le faire. Après, c'est dossier par dossier à étudier. Troisième critère, il faut que la personne, on ne peut pas lui donner une chirurgie sans qu'il ait déjà tenté médicalement d'autres, c'est-à-dire l'activité physique, le rééquilibrage de son alimentation et pourquoi pas les traitements nouveaux pour savoir si ça marche. Parce que si ça marche, à ce moment-là,
La chirurgie, c'est la dernière solution.
C'est la dernière. Quatrième chose, c'est donc on l'utilise en cas d'échec médical et le patient, il doit être informé de qu'il faut un suivi à vie pratiquement, parce que souvent il y a des déficits vitaminiques qu'il faut dépister. Il faut que le patient soit informé qu'il y a un suivi après par le médecin avec des prises de sang régulières une fois dans l'année. Voilà. Donc cette nécessité, elle doit être comprise par le patient et bien acceptée. Et puis, le dernier point, il faut que le risque opératoire soit acceptable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas opérer un patient qui a un risque par ailleurs opératoire qui peut être grave. Voilà. Voilà les points les plus importants.
C'est quoi exactement cette opération? Est-ce que c'est ce qu'on connaît par tchmim le maïda, le khatm, ou c'est quoi?
Alors, le khatm, ce qu'on appelle l'anneau gastrique, c'est de moins en moins utilisé. Donc, parce qu'il y a d'autres techniques maintenant qui sont arrivées, notamment une technique qui est maintenant la plus utilisée, c'est ce qu'on appelle la sleeve. La sleeve, c'est une gastrectomie, c'est-à-dire on coupe une partie de l'estomac, donc on réduit la taille de l'estomac.
D'accord.
Donc ça, c'est la plus maintenant, c'est la plus utilisée, ce qu'on appelle D'accord. la sleeve. Après, on utilisait aussi le bypass. Le bypass, c'est on prend l'anneau, un bout de l'intestin, et on court-circuite, si vous voulez, une partie de l'estomac. Et donc, ça permet un petit peu de créer d'une façon un petit peu une sorte de malabsorption.
Donc,
le bypass nécessite quand même des vitamines et du fer toute la vie après, avec un suivi
D'accord.
régulier. La sleeve, beaucoup moins, c'est surtout la première année où il faut prendre absolument des vitamines. Après, il faut qu'il y ait un suivi avec vérifier la biologie. Voilà, les deux interventions les plus fréquentes, c'est le bypass et la sleeve.
D'accord.
Qui sont très utilisés maintenant, mais beaucoup plus la sleeve maintenant que le bypass.
Docteur Zinedine Khayat, vous êtes endocrinologue. La prévention est-elle vraiment possible aujourd'hui et comment agir en amont dans les écoles, les familles et les entreprises?
C'est un problème de santé publique. Je pense, à mon avis, la prévention est très importante. Notamment, je suis... Je pense que les distributeurs de boissons ou de produits de sucre raffiné, tout ça, ces choses-là ne devraient plus exister dans les entreprises. Il faut mettre... maintenant, on voit dans certains pays qui sont un petit peu plus en avance, qui mettent autre chose, c'est-à-dire on met des fruits dans ces distributeurs, on met d'autres choses. Au lieu de mettre les barres chocolatées ou des sodas, etc., je pense qu'il ne faut pas que ça soit... facile à une distribution. Et évidemment, le rôle de la famille aussi, c'est très important. Quand on fait ses courses, j'ai pas dit il n'y a pas d'aliments interdits. Il ne faut pas interdire. Mais par contre, il faut modérer, notamment tout ce qui est produit transformé, produit raffiné. Il faut éviter dans la mesure du possible. Tout ce qui est raffiné, et encourager le sport, et varier l'alimentation. L'alimentation variée. Et plus vous variez l'alimentation très, très jeune pour les enfants, plus ils s'habituent à manger un petit peu, un peu
et
de tout.
Et peut-être combattre aussi la sédentarité.
Aussi,
avec les réseaux sociaux, les jeunes, ils passent beaucoup de temps
physique
dans leur lit.
Vous savez, maintenant, il y a des programmes, maintenant, ce qu'on appelle sport sur ordonnance. On peut prescrire dans toutes les mairies, il y a des associations, et on peut prescrire à bas prix. C'est-à-dire vraiment, les mairies s'engagent pour encourager le sport, quel que soit l'âge et quel que soit le handicap, parce que c'est de l'activité qui est adaptée à chaque personne. Il faut se renseigner auprès des mairies, il y a toujours des solutions pour l'activité physique, quel que soit le handicap de la personne, ça c'est très important.
D'accord.
Et les enfants, c'est très important de les habituer à manger un petit peu varié et tout. Il faut utiliser aussi des astuces, c'est-à-dire mélanger des légumes avec les féculents, mélanger. Ça, c'est très important de les habituer à manger un peu de
sain.
Tout.
Sain. Surtout quand on parle des enfants, Dr Zinedine Khayat, heureusement, en France, il n'y a pas les lunchbox. Parce que quand on voit sur les réseaux sociaux les mamans, ce qu'ils font pour leurs enfants dans les lunchbox, dans les pays arabes en général, la plupart, c'est des sucreries. C'est des gâteaux. Malheureusement, on ne voit pas la présence, par exemple, d'un fruit, d'un aliment, d'un féculent. Un conseil aujourd'hui pour les mamans qui croient qu'ils rendent service à leurs enfants en leur donnant ces sucreries.
Encore, j'insiste sur un point, c'est que c'est vrai que dire pas du tout de sucre ou interdire, parfois, ça peut être très... difficile à accepter pour beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'études qui montrent que le sucre, il fait plus de dégâts que l'alcool et le tabac réunis. Donc malheureusement, c'est très important. Je parle de sucre rapide, quoi, le sucre de forme raffinée. Donc le...
Il faut expliquer, quand on parle de sucre, on ne parle pas que du sucre blanc.
Ouais,
on parle de la farine blanche.
Oui, bien sûr. Et les boissons sucrées. Ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts.
La pâte tous les jours, à midi, le soir.
Donc les féculents, on peut manger des féculents, ce n'est pas interdit du tout. Un tiers d'assiette de féculents et puis un tiers de légumes avec une protéine et puis des crudités en entrée. Mais en tout cas, il faut habituer les enfants, pourquoi pas manger des fruits plutôt. Et à ce moment-là, vous pouvez, parfois l'enfant, il ne va pas vouloir manger une pomme, mais si vous la coupez en tranches et tout ça, il cherche la facilité.
Sous forme de brochette.
Voilà, il y a des formes qui permettent un petit peu plus facilement. Ouais. Et puis, encourager à manger. Voilà, c'est vrai que le pain blanc, ce n'est pas très, très conseillé non plus. Mais si on les habitue à manger des pains complets, des pains qui sont moins raffinés, après, les enfants s'habituent à ce genre de choses.
C'est un mode de vie. On va passer. Mohamed, 51 ans, j'ai développé du diabète de type 2 à cause de mon surpoids. Est-ce que perdre du poids peut inverser le diabète? C'est trop tard?
Ah non, pas du tout. Enfin, quand on a du diabète, c'est qu'on l'a. Donc le diabète, c'est une maladie chronique. Par contre, il y a des personnes, quand ils perdent du poids, et le diabète disparaît, c'est-à-dire il est en rémission. Mm-hmm. C'est-à-dire il peut nettement améliorer ou peut-être même faire disparaître le diabète. Mais il faut savoir que c'est juste qu'il se cache un peu le diabète quelque part. Et donc, si jamais il reprend du poids, il y a une reprise. C'est-à-dire il y a une insuline résistance qui augmente quand on a du poids. Et quand cette insuline résistance, elle diminue quand on perd du poids. Et du coup, le diabète il peut être nettement amélioré, voire après, on peut avoir des chiffres sans médicaments, avec des glycémies qui deviennent normales. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui perdent du poids, notamment après la chirurgie bariatrique, notamment après les médicaments pour l'obésité.
On rappelle la glycémie normale, docteur?
La glycémie normale, c'est entre 0,80 et 110, la glycémie normale. Mais le diabète est diagnostiqué à partir d'un gramme 26.
D'accord. Et l'hémoglobine?
L'hémoglobine glycée, c'est...
Khazan.
Ou tarakoumi.
Ou soukar tarakoumi.
Charkiyin. Le khazan ou tarakoumi ou l'hémoglobine glycée, chez quelqu'un de normal, c'est en général en dessous de 6% pour l'hémoglobine glycée. Mais le diabète, il considère à partir de 6,5, de 6,5, 7,5, mais l'hémoglobine glycée est considérée comme diabétique.
D'accord. Dounia, à 25 ans, je me sens bien dans mon corps, même si je suis en surpoids. Mon médecin me pousse à maigrir. Est-ce que l'obésité peut être sans danger si on est actif et sans maladie? 25 ans,
c'est en surpoids. Surpoids,
ça avec veut dire... l'âge, je pense qu'on peut développer la maladie.
Bien sûr. Surpoids, ça veut dire qu'on a un IMC entre 25 et 30. Alors, quand on s'approche des 30, on n'est pas loin de l'obésité. Donc, tout dépend. Il y a des gens... En fait, le surpoids peut entraîner des problèmes métaboliques, de diabète. Et ça dépend des ethnies aussi. C'est très important. Il y a certaines ethnies, dès qu'on est en surpoids, on commence à déjà avoir des problèmes métaboliques. Notamment en Inde. Alors que en Europe et les ethnies américaines et européennes et tout ça, ils développent beaucoup plus tard. C'est-à-dire qu'il y a une certaine tolérance, en fait,
Les
pays méditerranéens, ils développent plus tôt. Enfin, ils sont intermédiaires. Donc, en fait, tout dépend. Dépend des ethnies et ça dépend aussi... c'est important. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, le corps, c'est une machine incroyable et que plus on est habitué à manger une alimentation riche, plus il y a une certaine tolérance qui se crée au bout d'un certain temps. Les personnes qui avaient pas cette habitude-là, ils vont mal tolérer les produits transformés, ils vont développer les problèmes métaboliques plutôt que les autres. Donc, je ne sais pas si c'est compréhensible.
Oui, c'est très clair. Merci beaucoup, docteur. Mohamed, 61 ans, j'ai toujours eu un gros ventre, même en mangeant peu. Est-ce que c'est lié à l'âge ou un problème de métabolisme?
Alors, le ventre, c'est de la graisse, ce qu'on appelle la graisse viscérale. Et la graisse viscérale est justement un point très important, parce qu'on a parlé que de l'IMC, mais c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de toujours mesurer sur le tour de taille. Parce que on peut être pas avec un IMC fort, mais avec un tour de taille élevé. Vous savez que le tour de taille, pour une femme, il faut qu'il soit moins de 80 cm. Pour un homme, moins de 94 cm. Et donc, le tour de taille est très important parce que toutes les études montrent que la graisse viscérale est liée un petit peu à une augmentation de risque, notamment pour les maladies métaboliques et les risques cardiovasculaires. Donc, même si on a un IMC en dessous de 30, si on a un tour de taille qui est élevé, on a un peu plus de risque. Justement, je parlais des ethnies. Il y a certaines ethnies où ils ont pas le poids très élevé, mais par contre, le tour de taille, le ventre fait qu'on a une graisse viscérale qui est plus élevée et donc on a un peu plus de risques. Donc il faut lutter contre cette graisse viscérale, notamment avec l'activité physique et une hygiène de vie.
Yasmine, à 34 ans, j'ai suivi un régime très strict. J'ai perdu 15 kilos, mais je les ai tous repris. Est-ce que les régimes font plus du mal que du bien?
Ça peut faire plus du mal, hein, parce que justement, le mot strict, c'est ça qui est mauvais. Il faut faire un équilibrage alimentaire, mais pas de régime. Alors, je ne sais pas ce qu'elle veut dire avec strict, mais strict, ça veut dire, pour moi, a priori, régime sévère. Et les régimes sévères, ils sont toujours, toujours voués à l'échec. En fait, même on reprend plus que plus. Donc, il faut, quitte à ne pas voir sur la balance, l'évolution très rapide. Parce que c'est ça, en fait, qui décourage les gens, c'est que quand on fait l'équilibrage, on ne voit pas les résultats très, très vite.
Vous conseillez quel régime, docteur ?
Équilibrer l'alimentation. Équilibrer l'alimentation, ça veut dire qu'au petit déjeuner, vous prenez une boisson chaude. Et puis, le petit déjeuner, tout dépend de votre appétit. Mais sinon, vous pouvez faire un vrai repas, en fait, le petit déjeuner.
On parle des régimes protéinés.
Ça, c'est un autre sujet. Moi, je déconseille fortement les régimes protéinés. Et surtout, si vous avez d'autres problèmes, notamment, je déconseille fortement pour les gens qui ont des problèmes des reins, parce que là, c'est dangereux pour les reins. Mais les régimes protéinés, c'est des régimes qui donnent aussi beaucoup d'échecs par la suite avec une reprise de poids. C'est-à-dire manger beaucoup, beaucoup de protéines. En fait, ça se voit sur la balance très vite, mais il y a un échec par la suite. Je reviens sur l'équilibre de l'alimentation, c'est qui est vraiment le plus important. C'est-à-dire le petit déjeuner, une boisson chaude avec un morceau de pain complet, éventuellement un laitage de nature et puis peut-être pourquoi pas un fruit. Le midi, le soir, toujours commencer par un petit peu de crudité avec un plat qui doit comporter un tiers d'assiette ou un quart d'assiette de féculents et puis l'autre tiers ou l'autre moitié de légumes. Et puis un peu de protéines sous forme de viande, poisson, du poulet ou des œufs. Et puis le dessert, il faut que ça soit des fruits. Éviter tout ce qui est crème, éviter les produits transformés.
Tout ce qui est charcuterie.
Non, ça éviter, c'est trop. Je n'ai pas dit exceptionnellement si une personne a envie de ça, mais il ne faut pas que ça soit
toutes les
semaines, et même pas toutes les semaines. Et après, boire la boisson, c'est celle qui tombe du ciel, c'est de l'eau, évidemment. Éviter les boissons sucrées, ça c'est très important. Et j'insiste beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui prennent du jus et tout ça en mangeant. Déjà, ça donne, vous n'arrivez plus à sentir le goût des aliments que vous mangez. Et puis, ça augmente beaucoup, beaucoup votre... Donc, les boissons, il faut que ça soit de l'eau. Habituez vos enfants à boire de l'eau. Et puis après, dans l'après-midi, si vous avez faim, vous pouvez manger un fruit ou un yaourt nature. Boire beaucoup d'eau. Le café et le thé, ce n'est pas un problème si vous n'avez pas d'intolérance quelconque. Après, le soir, c'est la même chose. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de manger les féculents le soir parce qu'on va dormir. Mais si vous êtes très actif, vous pouvez manger un peu de féculents le soir et avoir une activité physique. C'est ça, l'équilibre.
Merci beaucoup, docteur Zinedine Khayat, pour votre présence et vos éclairages si précieux. Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est que l'obésité n'est pas un échec personnel, mais une maladie complexe, multifactorielle, qui nécessite un accompagnement bienveillant, personnalisé, et médical. Il est temps donc de briser les clichés, d'en parler sans honte et d'agir ensemble, bien sûr, pour trouver la solution, surtout faire appel à un spécialiste comme vous, docteur. Merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, pour votre fidélité. Je vous laisse le dernier mot, docteur Zinedine Khayat.
Mon dernier mot, c'est que je vous remercie infiniment. Je remercie énormément Radio Orient Merci à toutes les personnes qui m'ont posé des questions. J'espère que j'étais assez clair. Juste un petit point, parce que je pense que je ne l'avais pas évoqué, c'est que rester très tard la nuit et tout ça, ça augmente certaines hormones et ça fait augmenter aussi, parce que le fait de rester tard, de temps en temps, on va grignoter et ça, ça favorise beaucoup l'obésité et aussi rester sur les écrans énormément pour les enfants et même les adultes maintenant. C'est assez
Merci.
Fréquent. Ça joue aussi un rôle.
Merci beaucoup, docteur.
Merci infiniment à vous.
Merci.
Allô, docteur. Allô, docteur. Sur Radio Orient.